Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le changement à chaque élection, ou presque, il est annoncé comme un sésame pour se faire élire. Un certain président de la République en avait fait même son leitmotiv de campagne. Maladie contemporaine ou réalité de la vie et de la vie économique, le changement est sur toutes les lèvres et qu'on le veuille ou non, entreprise, cadre, salarié, tout le monde est dans son environnement professionnel confronté au changement. Alors comment faire face, en chrétien, à cette réalité sans trop rechigner, voire même en pensant que l'on a tout à y gagner ? Cette émission Vivante Église, je fais attention à pas dire voilà, parce qu'il paraît que je dis tout le temps voilà. Voilà. Cette émission Vivante Église ce matin, Oser le changement, avec François de Berthier, chef d'entreprise et consultant. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez venu l'année dernière faire une émission sur apprendre à maîtriser le temps. C'est une émission qui avait bien marché et vous avez la gentillesse de revenir ce matin pour parler du changement. Donc soyez le bienvenu.
C'est avec plaisir.
Alors, c'est une émission, on va dire, sur le fil, en tout cas pour moi, puisque c'est difficile, probablement que j'ai du mal à me faire au changement, mais surtout que c'est pas forcément... ce n'est pas l'émission la plus simple pour vous driver. On va avancer donc pas à pas ensemble. La première chose que vous vouliez partager sur ce... D'abord, peut-être qu'on va vous présenter un petit peu plus, quand même. Donc, vous avez été cadre dans des différentes grandes entreprises pendant à peu près 25 ans, et aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise et aussi consultant à côté.
Oui.
Et donc, il vous arrive d'intervenir sur cette problématique du changement. Dans quel cadre et auprès de qui, en fait ?
Ben, l'avantage que j'ai dans mon métier, c'est que je suis à la fois sur le terrain dans mon entreprise, avec une trentaine de collaborateurs, et puis en accompagnement, en coaching, comme on dit aujourd'hui, auprès de dirigeants de PME. Et effectivement, j'ai été très souvent sollicité par des gens qui se trouvaient en situation de blocage. Et ils ne savaient plus comment s'y prendre par rapport à une rupture technologique, législative, sociale. Et on a travaillé ensemble, et il me semble que c'est une expérience qui peut être intéressante à partager.
Voilà, donc en tout cas, c'est venu sur le tas d'une certaine manière. On a fait appel à vous, puis ça a marché, et donc du coup,
absolument,
on vous a rappelé. Voilà, donc vous avez quelques légitimités à être là aujourd'hui. Alors, première chose que vous voulez souligner, c'est que le changement, ça serait ni bon ni mauvais. Alors, j'avoue que j'ai un peu tiqué, parce que je me suis dit... En matière de changement, de conduite du changement, de coaching autour du changement, c'est vrai que parfois, l'a priori, ça peut être de se dire encore un énième bouquin ou un énième conseil. À la fin, on ne sait plus en fait ce qu'il faut penser exactement. Et par exemple, quand on dit que le changement n'est ni bon ni mauvais, je ne sais pas, au moment de la révolution de 1917, rétrospectivement, on peut se dire quand même que la révolution bolchevique, ce n'était pas un changement très heureux. Voilà.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par un changement n'est ni bon ni mauvais ?
Ben, cette révolution, elle faisait suite quand même à une accumulation auprès de la population russe de l'époque. Hein. Bon, enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas toujours changer pour changer. Et effectivement, avec la société de consommation telle qu'on la vit aujourd'hui, on a tendance à sortir tout un tas de nouveaux modèles au fur et à mesure pour pousser les gens à changer. Regardez l'exemple des smartphones. Hein, c'est un bel exemple.
Dont l'obsolescence serait programmée.
Absolument. Donc l'idée, c'est de dire, trop changer, c'est inutile et c'est du gaspillage quelque part, et ça perd les gens. Mais ne pas changer non plus, c'est refuser la vie. Parce que la vie, c'est l'évolution, ça change. Laisser une terre en jachère, revenez la voir un an après, elle n'est plus tout la même, elle n'a plus la même physionomie. Voilà. Et donc le changement fait partie de la vie. Et je discutais il n'y a pas très longtemps avec un architecte qui me disait, ben, un chantier, c'est un véritable projet où il y a un changement permanent, et en général, il y a entre un tiers et un quart de la réalisation de l'immeuble qu'on fait qui était complètement prévu différemment au départ sur les plans.
Pour l'entreprise, est-ce que de fait c'est une donnée de base à laquelle il faut se faire quand on est particulièrement en responsabilité, mais en fait tout le monde dans l'entreprise, y compris les salariés, qu'une vie d'entreprise, c'est forcément... du changement, des ruptures, etc.
Absolument, tout est éphémère. Hein, et ça nous renvoie à la Bible d'ailleurs, hein, tout est vanité. Cet exemple peut s'appliquer par exemple à la technologie. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie photographique, on travaillait sur les pellicules que vous avez connues, et ces pellicules ont disparu. Et dès 85, on savait qu'autour des années 2000, il apparaîtrait l'image électronique et qu'elle se substituerait à l'image argentique. Or, le leader mondial de la photographie qui était Kodak n'y croyait pas. Ils étaient persuadés que les selles d'argent resteraient la technologie dominante toujours parce qu'ils pensaient que l'électronique n'arriverait pas aux mêmes définitions.
Alors racontez cet exemple, parce que je crois que vous avez travaillé pour cette entreprise. Vous
étiez Absolument, j'ai été pendant 20 ans dans cette entreprise, et j'en étais le directeur général au moment où on a eu une OPA du groupe Kodak, et j'ai même été rencontré à l'époque le président de Kodak à Rochester, pour essayer de lui expliquer, attention, voilà vers où on va, voilà ce qu'il faut faire. Or Kodak avait déjà déposé tout un tas de brevets sur la question, donc ils étaient techniquement prêts. Mais politiquement parlant, ils ne voulaient pas abandonner leur technologie dominante.
Vous étiez directeur général pour la France ?
Non, pour l'entreprise de Toulouse, hein, puisqu'ils avaient racheté plusieurs entreprises, dont une à Toulouse.
Et il n'a pas voulu vous entendre ?
Ah non, non, non. On m'a pris pour un fou furieux, quoi.
Pourtant, vous ne deviez pas être le seul à le dire, non ?
Non, mais à l'époque, je n'ai pas été entendu. Et comme j'ai vu que je n'étais pas entendu, on se soumet ou on se démet. Donc je me suis démis, je suis parti.
Donc vous disiez que le changement était permanent, c'est pas l'expression que vous aviez utilisée, en tout cas j'en ai trouvé une, d'Héraclite d'Éphèse, rien n'est permanent sauf le changement. Voilà, ça fait
absolument.
Un petit...
La seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps.
Voilà, donc on va dire qu'on va partir sur cette réalité ou cette angoisse, parce que, comment dire, de fait, le changement fait peur. Alors c'est pareil, en préparant l'émission, j'ai essayé c'est la deuxième chose dont vous vouliez parler, d'essayer de me rappeler de quelques exemples. En l'occurrence, par exemple, on peut trouver des passages évangéliques. Par exemple, le jeune homme riche, donc ce jeune homme qui croise Jésus, qui a l'air d'être un homme globalement assez bon, assez vertueux, etc. Et puis le Christ lui demande en fait donc, de tout vendre, et puis il repart en étant tout triste. Alors là, le Christ lui a demandé un changement probablement assez radical, c'est normal. Vous n'accusez pas les chefs d'entreprise quand vous les accompagnez d'avoir peur du changement, j'imagine.
Ben quelquefois si, hein. Quelquefois je leur dis qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut croire dans le futur. Moi je pense qu'en tant que chrétien on a une chance, c'est qu'on a une foi dans la providence divine. Et que cette providence elle doit nous rendre optimistes, elle doit nous dire ben voilà, je comprends pas bien où j'en suis, je comprends pas bien pourquoi ça évolue de telle façon, mais je suis sûr par la vision que j'ai de l'avenir que la piste ou l'hypothèse sur laquelle je travaille est intéressante et positive, et donc je vais me forcer à changer, même si ça me fait perdre mes repères, mes habitudes et la façon de travailler que j'avais jusqu'à maintenant, de travailler ou de rencontrer les gens. Regardez la fameuse génération Y. Dont on a parlé à de nombreuses reprises. Le rapport de cette génération par rapport au travail était complètement différent du rapport qu'avait la génération précédente. Et souvent, les gens disaient « Mais je comprends rien, ces jeunes, on peut rien en faire, ils sont complètement autonomes, on peut pas les piloter. » Mais c'est pas vrai, on les pilotait différemment. Effectivement, si on faisait une note de service et qu'on l'affichait, ça convainquait 10% de la population. Si par contre on les faisait participer à une table ronde, à une discussion, bah c'était beaucoup plus facile, ils avaient des points de vue, ils discutaient et ils pouvaient adhérer.
D'accord, vous avez des gens de la génération Y dans votre entreprise
aujourd'hui ? Absolument, bien sûr, on en a tous. Et il y en a tous dans tous les groupes, dans toutes les organisations. Et justement, c'est cette confrontation ou cette complémentarité entre générations qui est intéressante. Hein, la personne plus âgée pouvant coacher, tutorer le nouveau, qui va apporter un sang nouveau. On a besoin de ça à nouveau.
Alors peut-être pour que vos conseils passent mieux, est-ce que vous pourriez prendre un exemple, vous, comme cadre ou comme chef d'entreprise, où vous avez eu peur d'une situation de changement et vous avez réussi à aller au-delà ou à dépasser cette peur ?
Oh ben on peut prendre l'exemple de la crise de 2008. En septembre 2008, notre activité a baissé d'un coup, à partir de septembre 2008, de 40%. Ça veut dire presque la moitié de l'activité. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on travaillait beaucoup dans le stockage et la distribution de mobilier de bureau. Or, au moment de la crise financière économique qu'on a eue en 2008, les entreprises avaient d'autres soucis en tête que de renouveler leur mobilier de bureau. Hein, les bureaux directionnels, très chers, etc., c'était plus la mode. Et là, il a fallu trouver des solutions. Donc, on est passé par des cases très douloureuses. Hein, chômage technique, licenciement économique, ça a duré pendant un peu plus de 6 mois. Et on a cherché éperdument une activité complémentaire à se mettre sous la dent. Et on n'a pas trouvé la bonne tout de suite. Je suis parti sur le stockage et la distribution de tourées de câbles électriques pour des très grandes entreprises comme Nexans, Silec, France Télécom. Et puis on s'est aperçu que ça n'était pas compatible avec le reste de notre activité. Donc au bout de 18 mois, j'ai redû faire marche arrière. Et ce n'est qu'à partir de 2013, 2012-2013, qu'on a trouvé l'activité principale qu'on a aujourd'hui.
Mais là, vous décrivez une difficulté, pas forcément une peur, non ? C'est...
Oh bah si, si, quand vous voyez que vous ne pouvez plus faire votre paye, hein, que vous voyez qu'à la fin du mois, vous êtes en découvert bancaire, qu'il faut aller chercher, remettre en compte courant de l'argent personnel que vous avez de vos économies pour pouvoir assurer la continuité de l'entreprise, c'est plus qu'une peur, c'est une grande angoisse. Hein. On se dit, on va au tapis. Et ça s'est même traduit par le fait que j'ai dû me séparer de certains associés qui ne comprenaient pas, qui n'étaient pas prêts à remettre au pot. Parce qu'on dit toujours, les chefs d'entreprise, ça collecte des bénéfices, ça touche des dividendes. Oui, mais quand ça va mal, ça doit mettre en compte courant. Et toutes les entreprises passent par des phases où il faut savoir remettre de l'argent dedans pour montrer qu'on y croit.
Donc, la première chose, c'est qu'en fait, il faut accepter que le changement, peut-être pas en faisant écho à cette phrase d'Héraclite, là, qui est peut-être un peu excessive ou sévère, rien n'est permanent sauf le changement, mais le changement, c'est une réalité comme une nécessité, d'une certaine manière.
Absolument.
Néanmoins, toute conversion, pour rester dans un registre évangélique, est une difficulté. Alors, peut-être, oui. Ça serait le dernier volet avant qu'on fasse une première pause. Il ne faut pas s'étonner que ça soit difficile. Quel conseil vous donneriez à tous les gens qui sont en responsabilité, qui écoutent
Le problème, souvent, c'est que c'est lié à un manque de dialogue. On a peur du changement parce qu'on perd ses repères. Et chacun a des repères différents et il faut confronter.
C'est tout.
Et oui, si on est ensemble, c'est ce qu'on appelle le partage des analyses, et on va pouvoir peut-être le développer un peu maintenant. On va échanger. Qu'est-ce que tu vois là? Comment tu vois les choses? Comment tu t'y prendrais? Il faut prendre le temps de s'arrêter, d'écouter, de partager.
D'accord, mais dans la conversion, il y a une difficulté. C'est normal qu'il y ait un travail, d'une certaine manière.
Ça ne peut pas se faire autrement. Hein. C'est comme quand on veut changer l'utilisation d'une terre. On est obligé de passer par le labour, hein. Et vous vous souvenez, l'assolement triennal, là, qu'on apprenait en géographie autrefois, c'est exactement pareil. À un moment donné, il va falloir retourner la terre pour pouvoir ressemer et mettre une graine différente de celle de l'année dernière.
Alors, on va faire une première pause, courte pause, et puis on vous retrouve après. Entre autres, une première grande leçon, en tout cas, que vous voulez souhaiter communiquer ce matin, c'est que justement, il faut apprendre à communiquer. Mais communiquer, ça ne s'improvise pas. Vous avez quelques conseils de sagesse et d'expérience à partager avec nos auditeurs.
J'irais bien planter mon grain de riz au lieu de me tourner les pouces. Planter mon grain de riz là où rien ne pousse. Mais mon pauvre petit grain de riz, sitôt qu'ils l'auront trop cuit et qu'ils l'auront tout mangé, va jamais pousser. J'irais bien mettre un grain de folie sur le camp de leurs habitudes. Mettre un grain de folie dans leur solitude. Mais mon petit grain de folie, quand ils en auront bien ri, je sais que pour me l'ôter, ils vont m'enfermer. Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue et rien que là, où ne fondra pas, où ne fondra pas. J'irais bien glisser mon grain de sable dans l'ordre et la paix civile. Glisser mon grain de sable au milieu des huiles. Mais mon pauvre petit grain de sable, dans quelle eau ces incapables, dans quel béton mal coffré vont-ils le jeter? Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue et rien que là où ne fondra pas. Ne fondra pas. J'irai bien mettre un grain de beauté dans leur maison, leur message. Mettre un grain de beauté dans leur paysage. Mais mon petit grain de beauté, ils voudront le faire sauter. Quand ils m'auront bien fait mal, tout sera normal. Si j'allais poser mon grain de sel dans leur salle ou leur salade, poser mon grain de sel dans leur purée froide ou dans leur bac à vaisselle, mon petit grain de sel, quand il aura disparu, toi tu m'aimeras plus. Quand il aura disparu, toi tu m'aimeras plus. Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue et rien que là. Ou ne fondra pas, ou ne fondra pas.
Présence.
Emmanuel Pella.
Oser le changement, c'est donc le thème de l'émission de ce matin. Et pour nous accompagner sur cette thématique, donc François de Berthier, chef d'entreprise et consultant. François de Berthier qui était déjà venu à cette antenne pour partager son expérience en termes de maîtrise ou de gestion du temps. Voilà donc des conseils, on va dire, de vie et des conseils d'un homme expert en accompagnement d'entreprise et lui-même chef d'entreprise qui peuvent s'adresser donc aux chefs d'entreprise qui nous écouteraient, aux cadres, mais aussi à tous les salariés, toutes les personnes qui travaillent, ou même on peut décalquer ça sur sa vie personnelle. Donc le changement, c'est la vie, pour trouver un autre slogan que celui de notre ancien président de la République. Alors, vous avez on va dire un premier panier de recettes, c'est tout. Les choses qu'on dit se paraissent simples, mais c'est des conseils de sagesse que vous développez quand même et qu'il est bon de rappeler, d'expliciter. C'est la communication. Voilà. Alors, votre première mise en garde, c'est de dire attention aux déclarations péremptoires. En même temps, face au changement, c'est souvent. Enfin, si on prend par exemple l'exemple d'un avion qui changerait de cap tout d'un coup, certainement que la première chose que ferait le pilote, c'est pas forcément d'expliquer pourquoi il change de cap, mais c'est d'abord de changer de cap. Mais vous dites pour autant que les déclarations venues d'en haut ou un peu péremptoires sont pas forcément les bonnes, et vous aviez quelques exemples pour ce sujet.
Oui, parce que le pilote, avant de changer de cap, il a dû expliquer quel serait le parcours qu'il ferait, le programme du voyage et la façon dont il s'y prendrait. Et donc, dans la gestion positive du changement, dans la réussite du changement, ce qui est important, c'est de prendre le temps d'observer, de faire observer par les gens et de les sensibiliser aux remises en question que nous avons. S'il y a dans une entreprise un client qui se plaint, qui est mécontent, quelqu'un qui s'en va, qui démissionne, eh ben, il faut se poser des questions. Donc le premier principe fondamental, c'est d'être toujours en position de recul, d'observation et de sensibilisation des autres. Et au lieu de dire, quand on rencontre quelqu'un, je vais t'expliquer ce qui se passe, prendre l'habitude de lui dire qu'est-ce que tu en penses. Chaque fois qu'on dit à quelqu'un qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce que vous en pensez, on lui dit quelque part qu'on le respecte, que son point de vue est important. Et ça, c'est une démarche chrétienne aussi. Hein, ça veut dire qu'à un moment donné, on reconnaît que chacun a une capacité de réaction par rapport aux choses. Et si on met à sa disposition un certain nombre d'éléments d'observation, de tableaux de bord, comme on dit, hein, d'écran, et qu'on lui apprend à lire les chiffres qui y paraissent, les camemberts, les colonnes, etc., eh ben, il va petit à petit découvrir les choses. Il va se sensibiliser. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va se trouver en situation de confiance. Il va d'abord prendre confiance en lui-même. Il va faire confiance à la structure qu'il emploie, qu'elle soit municipale, administrative, familiale, peu importe. L'important, c'est que chacun soit à même de comprendre. Et à partir du moment où il va être à même de comprendre, il va, à un moment donné, être d'accord pour agir en concertation avec les autres dans des chemins d'évolution. Même si ces évolutions implique pour lui des changements de comportement, parce qu'il aura perdu ses repères, parce qu'il aura perdu son savoir-faire. Tu changes d'outil, cet outil-là ne s'utilise plus comme le précédent.
Alors vous dites aussi qu'en fait c'est très important d'essayer d'être transparent. Alors est-ce que c'est toujours possible? Moi je sais pas, j'ai jamais été chef d'entreprise, mais enfin si...
Mais c'est vrai pour tous les responsables. Hein. L'entreprise, c'est pas une entité sociale différente. Hein. Toute organisation, quelle qu'elle soit, a à un moment donné quelqu'un qui est à la tête, quelqu'un qui est responsable. Et la responsabilité, justement, ça consiste quelque part à avoir une certaine exemplarité. Alors, je suis pas prétentieux en disant ça. Je dis pas que je suis parfait. Je suis parfaitement conscient de mes insuffisances, de mes carences, de mes fautes. Mais en même temps, je me pose la question toujours. Est-ce que ce que tu demandes aux autres, tu es capable de te l'imposer à toi-même? Et c'est ça le premier principe. Si on impose aux autres des contraintes dont on se libère soi-même, on n'est pas crédible. Et si on n'est pas crédible, voir ce qui se passe au niveau politique aujourd'hui là, sur un plan fiscal.
Là, c'est l'exemplarité, mais je parlais aussi de la transparence. C'est-à-dire, en fait, faire le choix d'être simple, vrai, c'est ça. Et
absolument.
De dire que les gens vont se responsabiliser d'eux-mêmes.
Absolument. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout mettre sur la table, bien entendu. Surtout que dans tous nos métiers, on a ce qu'on appelle le secret professionnel. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Et à partir du moment où on est dans une équipe, on doit partager avec cette équipe.
Est-ce que vous auriez un exemple qui vous viendra en tête où cette transparence a été payante, ou une fois où vous avez conseillé ça à un chef d'entreprise, ou...
Je peux prendre l'exemple d'un conflit qui existait entre deux dirigeants associés, et tout le monde dans l'entreprise était bien au courant. Bien évidemment, on voyait bien qu'il y avait des ordres et des contre-ordres, hein, et ce qui crée le désordre selon l'adage consacré. Les deux associés refusaient toujours de s'expliquer entre eux, finalement, devant l'équipe dirigeante. Et à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas à faire le tour du mur, il faut à un moment donné lever cet handicap. Et donc, on a fait une réunion avec le comité de direction sur est-ce que nous sommes crédibles ? Difficile. Eh bien voilà, on s'est posé des questions, hein, les 5 membres du comité de direction et les 2 associés, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre démarche, notre orientation soit crédible, et autrement dit, la direction, la façon de mener la direction d'entreprise soit crédible, et qu'on arrête de se couper l'herbe sous le pied mutuellement. Et ça aboutit à une nouvelle répartition des tâches, et à ce qu'il y ait des domaines réservés et des domaines interdits à d'autres. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné laisser le champ du voisin, et se donner des limites à ses capacités d'intervention.
Donc première chose, prendre l'habitude d'une certaine manière, comme on dit que la civilisation commence avec « après vous », en laissant passer ces dames et autres quand on ouvre une porte. En tout cas, vous dites que peut-être qu'un bon chef d'entreprise ou dirigeant, il faut commencer par dire « qu'est-ce que vous en pensez ?». L'autre chose que je retiens, c'est donc faire le choix, en tout cas, d'une certaine transparence,
oui,
et d'une certaine vérité et simplicité. Et puis aussi, d'apporter une vision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous prenez l'exemple, on prépare l'émission, vous disiez que c'est pas la même chose quand on s'assied autour d'une table, face à face ou alors côte à côte.
Absolument. Ça, c'est un grand principe. Si on est face à face sur une table, on va avoir tendance à s'affronter, hein, à faire un peu comme les béliers, corne contre corne. Alors que si on est côte à côte, on est en face du même paysage. On va regarder les mêmes choses et on va pouvoir partager ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu en penses, là ? Là, il y a tel arbre qui gêne la vue, ou là, il y a telle clôture qui est disgracieuse, etc. Et à force de discuter, on va finir par voir le même paysage. Alors qu'au départ, l'un était obsédé par la clôture, l'autre par un arbre, le troisième par un chemin, voilà. Donc le point important, c'est qu'à un moment donné, on ait mis en commun les différentes visions qu'on peut avoir pour arriver à une vision commune. Et il ne peut pas y avoir d'élan et de projet quelque part s'il n'y a pas une vision.
Mais je pensais que c'était le rôle du leader que d'apporter une vision. Après, c'est une vision qui peut se construire avec les autres, mais souvent on dit que la personne qui a le leadership, c'est celle justement qui amène une vision.
Donc c'est vrai. C'est
qui
vrai.
Entraîne vers un objectif,
c'est vrai,
vers
que
un rêve presque.
C'est lui qui doit prendre l'initiative de la vision. Mais il ne peut pas prétendre avoir la vision complète à lui tout seul. Il a besoin de ceux qui sont sur le terrain, de ceux qui sont confrontés à la réalité en permanence. Et il ne faut pas croire qu'on peut diriger une organisation, quelle qu'elle soit, d'un bureau. C'est pas vrai. Il faut aller sur le terrain. Et on a besoin de l'expertise des gens du terrain. Et plus on sera capable de faire prendre des décisions à proximité du terrain, plus l'entreprise ou l'organisation sera performante. Plus il faudra que tout remonte à la tête, pire c'est. On parle beaucoup aujourd'hui de transversalité. C'est quoi la transversalité ? C'est l'opposition par rapport à la hiérarchie verticale qu'on avait auparavant. Et on dit aujourd'hui, s'il y a une décision qui touche à la fois des problèmes techniques et des problèmes commerciaux, il faut que spontanément les commerciaux et les techniciens discutent ensemble. Qu'ils n'aient pas besoin de se retrouver autour du directeur général pour dire avec lui, voilà chef, on a tel problème. Non. Plus on va pouvoir avoir des transversalités dans la société où on est aujourd'hui, et c'est vrai dans toutes les activités, mieux on se portera, parce que plus les choses seront simples à régler. Notre grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a des constructions qui sont beaucoup trop compliquées.
Prenez des exemples.
Le code du travail actuellement, par exemple. Hein. Moi, j'ai gardé mon code du travail du temps où j'étais étudiant, en 1968, et puis j'ai le code du travail actuel. Le code du travail actuel est 4 fois plus épais que le code de travail de 68. Alors on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Belle phrase, mais la réalité est impossible. moi qui suis un praticien du code du travail depuis 40 ans, ou 30 ans, plus de 30 ans, c'est vrai que j'ai encore besoin de m'y remettre. Et là, par exemple, avec les changements de la loi El Khomri, quand j'aborde un sujet, ben, je suis obligé d'aller rattraper mon code pour relire en quoi a changé telle et telle disposition.
Pour autant, en l'occurrence, ce que vous conseillez entre les lignes à Emmanuel Macron, alors probablement qu'il ne nous écoutera pas, hein, mais ça serait de conduire cette réforme, même si la vision qu'il apporte, c'est de réduire considérablement le code du travail, et du coup de faciliter la vie des entreprises, la vie économique, etc. Ça serait de ne pas faire sans consulter, dans ces cas-là, les corps sociaux.
Oui, non, mais bien sûr, mais je crois que ça, il en est bien conscient. Mais le point surtout important, c'est le « make it simple ». Est-ce que je fais les choses simples ou est-ce que je fais les choses compliquées? Est-ce que je suis capable de rédiger un texte qui soit compréhensible ou est-ce qu'il faut à chaque fois le relire 7 ou 8 reprises pour à peu près avoir une idée de ce qu'il veut dire? Et nous, on est les champions en France là-dessus, hein, dans tous les domaines, de toutes les organisations, que ce soit sur un plan de l'entreprise, mais également sur un plan fiscal, sur un plan du code de la route, il y a, dans tous les domaines, la réglementation des métiers. C'est ahurissant.
Donc première chose, apprendre à bien communiquer, si on doit résumer. La dernière chose peut-être en matière de communication, c'est que vous dites qu'il faut savoir bien expliquer les risques et la conscience que l'on a des risques et des difficultés. C'est-à-dire qu'il faut, après avoir pris le pouls, apprendre à être, d'une certaine manière, à faire confiance en étant transparent, apporter une vision, il faut aussi montrer quoi, que quand on est en responsabilité, qu'on a une part de fragilité, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qu'on est conscient des risques et qu'on y fait face soi-même.
Qu'on est prêt à faire face. C'est surtout ça qui est important. Dire je suis pas capable d'avoir tout prévu, j'ai essayé d'évaluer différentes hypothèses, mais quoi qu'il en soit, je suis à vos côtés, je suis en première ligne avec vous pour me battre. C'est pas débrouillez-vous dans votre coin, je veux plus en entendre parler. C'est ça. Le problème, c'est qu'on peut pas se défiler. Il faut jamais se défiler. Il faut affronter, il faut aller au combat, hein, et pas aller-y tout seul. Ça, c'est le point important. Et les hommes seront d'autant plus impliqués qu'ils verront que nous le sommes aussi, hein. Et je n'ai jamais oublié cette phrase qui disait « si tu t'assois, il se couche ». C'est bien ça. On n'a pas le droit de s'asseoir. À un moment donné, on est dans une difficulté, dans un problème, on reste debout et on se fait face.
On va faire une deuxième pause et puis on va continuer sur les conseils en matière de conduite du changement.
Petit poussé, chemin faisant, sème l'insouciance, rêve d'enfant. Sourire apprendre jour après jour en affrontant tous ces vautours. Perché, j'admire la vie qui me murmure ainsi. Que l'on peut être roi, ça dépendait de moi. La vie m'a raconté qu'il fallait être fort, malgré les écorchures et de l'âme et du corps. La vie m'a raconté qu'il fallait être soi, et elle s'est pas moquée, non, s'est pas moquée de moi. Blanche comme neige, on nous l'annonce, un pur arpège, l'air du mensonge. Comment faire taire ces calomnies pour mieux se plaire? Après minuit, je préface mon carrosse sans la fée carabosse. On est tous un peu rois, ça dépend de ce qu'on croit. La vie m'a raconté. Être fort, malgré les écorchures et de l'âme et du corps. La vie m'a raconté qu'il fallait être l'autre soir, et je l'ai écouté au-delà de ses voix. La vie m'a raconté qu'il fallait être fort, malgré les écorchures et de l'âme et du corps. La vie m'a raconté qu'il fallait être soi, et elle s'est pas moquée, non, s'est pas moquée de moi. Pas moqué de moi.
Radio Présence à Foix 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, oser le changement, conseil, on va dire, d'un manager pour d'autres managers, mais pas seulement, peut-être pour tout le monde, pour toutes les personnes, en tout cas en responsabilité. On est toujours en responsabilité, ou moins de soi-même, en tout cas souvent au moins d'un petit groupe, parfois ne serait-ce que dans un cadre familial ou amical, avec François de Berthier, chef d'entreprise et consultant. Alors, François de Berthier, vous nous avez expliqué un peu la réalité du changement dans la première partie, pour faire très court, réalité à laquelle il faut faire face, en fait, et qu'il faut accepter. Ensuite, quelques grands conseils en matière de communication. Et puis, pour prolonger ces conseils en matière de communication, vous insistez beaucoup sur, et vous l'avez dit déjà, une forme de management plus transversal. Alors, c'est très à la mode, mais vous aviez un exemple peut-être pour commencer, pour illustrer cette nécessité.
Oui, c'est un exemple qui n'est pas de moi, qui est de Christian Morel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les décisions absurdes ». C'est un bouquin de février 2013 et qui raconte un accident qui a lieu en montagne. Donc, c'est un groupe de skieurs bien avertis déjà qui font une randonnée hors piste avec un guide de montagne. Le guide, avant de partir, explique à chacun, attention, il y a deux pentes qu'on va devoir traverser, qui sont des couloirs d'avalanche connus, et avant de les franchir, on aura une discussion entre nous pour valider que tout le monde est d'accord pour passer cet endroit dangereux. Et dans le groupe, donc, il y a 7 participants, plus un guide stagiaire et un guide junior. Bon. Après 2 heures de randonnée, on arrive au pied de la première pente, et là, le guide pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour y aller? Est-ce qu'on franchit la pente dangereuse? C'est surtout les guides stagiaires et juniors qui s'expriment, et peu le groupe. Donc le chef dit, non, c'est pas bon, là, on sait pas s'exprimer, vous dites, on peut y aller, mais en fait, j'ai pas entendu l'avis de chacun, je veux que chacun s'exprime. Et là, ben, y a un des participants qui n'est pas professionnel, qui dit, ben, tiens, là, à un tel endroit, il y a une espèce de corniche là, qui a l'air d'être en équilibre, qui peut être dangereuse. Ah tiens, effectivement.
Histoire vraie, je rappelle. Hein,
Pardon ?
C'est une histoire vraie.
Absolument. Tiens, effectivement, tu as raison. Et puis, un guide stagiaire dit, mais finalement, la température est beaucoup montée, là, par rapport à ce qu'elle était quand on est parti. Donc, peut-être que le risque n'est plus de 2, mais il est plutôt de 3. Et un autre participant a fait remarquer qu'effectivement, l'ensoleillement est très important et qu'il y a des chances que l'instabilité soit forte. À ce moment-là, le guide principal fait revoter le groupe et dit à chacun oui, non. Et il rappelle que les messieurs n'ont pas besoin de croire qu'ils vont être en situation d'infériorité par rapport aux dames si jamais ils refusent d'y aller. Très bien. On vote et là, la décision est négative. Le groupe continue à randonner en évitant cette pente et ils rentrent à la station. Et quand ils rentrent, ils apprennent que le groupe qui les suivait a voulu franchir ce couloir d'avalanche et qui a 2 tués et 3 blessés. Voilà. C'est une réalité.
C'est une réalité. Souvent, les exemples de montagne sont très parlants pour ça. C'est comme la haute mer. Alors, la première chose, c'est que donc, vous dites qu'il faut privilégier face au changement la collégialité et accepter parfois la contradiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pareil, est-ce que vous pouvez trouver des illustrations dans vos différents coaching de dirigeants ou dans votre expérience personnelle?
Ben, c'est pas seulement dirigeant, mais c'est vrai aussi du père de famille. Le chef a toujours raison. C'est l'adage qu'on connaît tous. Hein. Et dans une famille, ben, le père a toujours raison par rapport à ses enfants, par exemple. Donc l'idée fondamentale, c'est qu'on va décider de privilégier systématiquement la décision collégiale sur la décision individuelle, en disant ben, à deux ou à trois, on est plus intelligent que tout seul. Donc c'est toujours pareil, partage d'analyse, et ce partage il se fait au sein de ce qu'on appelle un débat contradictoire. Contradictoire, ça veut dire qu'on va accepter que l'un ne soit pas forcément d'accord avec nous. Et dans la démarche de Christian Morel, il dit même qu'on peut pousser le débat contradictoire très loin en nommant quelqu'un avocat du diable. Ne quittez pas la table tout de suite. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va toujours voir le mauvais côté des choses, la bouteille à moitié vide, et qui va être un peu celui qui va tuer le moral des autres. Mais c'est indispensable si on veut que ce débat contradictoire aille au bout, et que notamment on puisse aboutir à un vrai consensus. La plupart du temps dans les organisations, dans les groupes, on se contente du consensus mou. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose à partir du moment où personne n'est contre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait tout le monde qui soit pour, ou une majorité de gens qui soient pour. Et c'est complètement différent. Autre principe fondamental, les individus vont accepter de s'informer mutuellement. On ne va pas accepter des informations de l'un et pas de l'autre. Dans le groupe de skieurs, c'est quelqu'un de non professionnel qui avait remarqué la corniche. Le guide aurait pu lui dire « Mais non, mais toi, tu n'y connais rien, c'est normal, c'est un dépôt de neige normal. » Non, non, c'est d'un non-professionnel, mais son observation est bien prise en compte. Voilà, donc il n'y a pas de prétention du professionnel dans cette information mutuelle. Ensuite, quand il y a une erreur, il faut accepter aussi qu'il y ait la non-punition.
C'est-à-dire ?
Ben, ça veut dire que si quelqu'un a fait à un moment donné un mauvais geste, un mauvais comportement et que ça aboutit à quelque chose qui pourrait être dangereux, il faut que ça remonte pour qu'on puisse en tirer la leçon, appliquer ce qu'on appelle une mesure corrective et une mesure préventive. Et si on punit chaque fois qu'il y a un mauvais comportement, eh ben, on ne va pas être au courant des mauvais comportements, on ne va pas être au courant des erreurs et des risques d'accident.
Alors pardon, ça, si ça vous embête pas, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Parce que là, donc, collégialité, contradiction, donc ça vous avait dit qu'en grosso modo, face à une situation de crise, il faut... Et enfin, on a des exemples, y compris dans la vie monastique, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, dans le film « Des hommes et des dieux », voilà, on peut se souvenir du moment où les frères discutent de l'opportunité de rester ou pas, alors qu'ils sont menacés par les terroristes et les djihadistes. Et puis, la première séquence, c'est qu'on voit le père Abbé, donc Christian de Chergé, qui va de manière un peu péremptoire, mais en même temps d'une manière un peu prophétique, hein, qui dit « il faut rester », voilà, et puis les frères lui disent « attends, t'es gentil, mais on t'a pas élu pour que tu décides tout seul ».
Exactement.
Voilà, et puis ils rediscutent, cette fois ils choisissent ensemble.
Et vous avez remarqué qu'avant quand même de donner la parole à tout le monde, il va faire un grand tour en montagne.
Exactement.
Il a besoin de s'isoler, de prendre du recul, de monter sur la montagne d'où on voit les choses de plus haut.
Donc collégialité, contradiction, vous dites aussi qu'il faut, alors vous l'avez dit plusieurs reprises, mais il faut apprendre à faire confiance au désir de comprendre et de grandir de tout le monde. Mmh. Et pour ça, vous faites un parallèle avec le scoutisme. Oui. Alors qu'est-ce que le scoutisme a à faire dans la vie d'entreprise? On se dit que c'est vraiment, c'est radio-cato là. C'est...
Pour moi, c'est une école de vie. Hein. J'ai été louveteau, puis scout, puis je me suis longtemps impliqué à Lourdes dans les foulards blancs. C'est vrai que c'est une chance extraordinaire pour un jeune de découvrir ce qu'est la vie en équipe, d'abord. Qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, chacun travaille tout seul, on fait ses devoirs tout seul dans son coin. Et deuxièmement, de prendre des responsabilités. Parce que là, on n'a pas de repères. Parce qu'on est dans la nature. Qu'il va falloir fabriquer une table, un banc, faire du feu, etc. Et qu'on ne sait pas. Donc on est en permanence dans la jungle, entre guillemets, à devoir inventer tout. Formidable. Et le tout en équipe.
Et pourquoi faire confiance au désir de comprendre et de grandir? C'est-à-dire, quel est le...
Alors, le point important, quand on recrute quelqu'un, par exemple, dans une organisation, quelle qu'elle soit, on a tendance à dire « je te prends ». Quel terme odieux. J'essaye toujours, dans ces cas-là, de dire « nous avons décidé de vous faire confiance ». Vous voyez que c'est complètement différent. Ça veut dire que la personne qui arrive sait qu'elle porte une confiance qui lui est donnée par le groupe qui décide de l'intégrer. Et à la fin de la période d'essai, la première question que nous posons à la personne, c'est « est-ce que tu te sens en confiance ?» Parce que si tu te sens en confiance, tu vas pouvoir participer, contribuer, apporter ton écho à la construction générale. Formidable. Donc ce mot confiance, il est fondamental. Et pour moi, très souvent, on me dit qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la motivation autour de moi, etc. Je dis, mais la motivation est un sous-produit. C'est un sous-produit de la confiance. Créer la confiance. Donner un contexte dans lequel les individus vont se sentir en confiance. Et à partir de ce moment-là, la motivation, la créativité, l'innovation, tout ça, c'est pareil. C'est un sous-produit.
Alors, je vais essayer de résumer, hein, parce que c'est vrai que, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous nous disiez donc qu'en tout cas, globalement, il faut apprendre à communiquer et à motiver. Et pour ça, il y aurait quelques grandes règles. La première grande règle, en fait, ce serait donc de faire confiance, de consulter, d'accepter la contradiction, et en même temps d'être, pour un chef, pour une personne en responsabilité, d'être à mi-chemin entre celui qui propose une vision et qui sait temporiser, écouter, accepter la contradiction, etc., etc. Bref, ça fait beaucoup de choses. Peut-être avant qu'on fasse une dernière pause musicale, parfois, on a le sentiment, quand on parcourt ce genre d'ouvrage ou toutes les vidéos qu'on trouve sur Internet, que ça fait, entre guillemets, toujours des injonctions supplémentaires pour les personnes en responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de choses auxquelles on doit faire face, et puis tout le monde y va de son grain de sel. Alors vous, c'est un peu différent, parce que vous êtes chef d'entreprise et consultant. Quelque part, on doit davantage vous écouter. Mais il y a un petit côté, il y a qu'à Faucon, n'oubliez pas, oui. vous devez être extraordinaire. Qu'est-ce que vous répondriez peut-être à cet énervement, cette réserve que peuvent avoir certains?
Il ne faut pas se leurrer, c'est compliqué d'être responsable. Hein, c'est plus confortable d'être exécutant.
Et c'est pas toujours. Je vous dis ça côté exécutant. Mais...
Oui, mais si quand même. Je veux dire que le responsable, il n'est jamais installé. C'est jamais acquis, c'est jamais gagné. On est dans une course, c'est comme un marathon. Hein, on nous dit toujours quand on commence un marathon, je ne sais pas si vous en avez fait, mais que c'est les 3 premiers kilomètres les plus importants parce que c'est là qu'on va trouver son rythme. Bon. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres moments où on est en peine, où on est en difficulté, où on a envie de tout abandonner. Et le responsable, c'est celui-là, c'est celui qui va toujours donner l'impulsion pour aller un peu plus loin. Donc c'est compliqué d'être responsable, il ne faut pas se leurrer. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue en étant à la fois consultant et chef d'entreprise, c'est que je suis sur le terrain, je suis au four et au moulin en même temps, et j'ai la chance, au travers de mon activité de consultant, d'avoir du recul, de me sortir du terrain pour regarder ce que j'ai fait. Pourquoi tu fais les choses comme ça, me demande-t-on souvent. Tiens, c'est vrai, c'est une bonne question. Et ça, je l'ai découvert quand j'étais chez Bell Telephone, au Canada, où on était en même temps dans notre contrat de travail, formidable expérience. On devait consacrer 4 heures par semaine à l'université McGill, comme chargé de TD, si vous voulez. Et je me retrouvais avec des étudiants qui me disaient « Mais pourquoi tu fais ça comme ça ?» Je n'y avais jamais réfléchi, je ne m'étais jamais posé la question. Et donc ça m'a obligé à essayer de réfléchir, de formaliser, de contextualiser, je dirais, la façon de procéder que j'avais et de comprendre celle des autres aussi.
Bref, voilà, de même qu'il faut accepter le changement, il faut accepter quand on est en responsabilité que c'est difficile et que donc il faut forcément faire un minimum de travail sur soi. Donc on va dire que cette émission, à sa toute petite mesure, peut-être y contribuer. On va faire une dernière pause musicale, histoire de... laissez décanter tout ça, et puis quelques derniers conseils, un pot pourri de vos conseils en matière de conduite du changement.
plaisance.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Oser le changement, ce matin donc avec François de Berthier, si vous nous prenez en cours de route, chef d'entreprise et consultant, pour finir cette émission donc sur la conduite du changement, pour prendre un terme donc professionnel, avec un regard malgré tout chrétien, qui est celui de François-Xavier de Berthier. Vous aviez quelques, on peut dire, vous vouliez finir par deux, trois conseils. Revenir entre autres sur l'idée de non-punition. Est-ce que vous pouvez redire ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est dire la non-punition en fait ?
Alors, la non-punition des erreurs, c'est la possibilité pour quelqu'un de révéler un incident dont il est auteur ou à l'origine, et que pour autant, il ne soit pas sanctionné. C'est tout simplement ça. L'idée fondamentale étant que les anomalies, les dysfonctionnements remontent pour qu'on puisse les traiter. Dans la démarche qualité, on appelle ça les mesures correctrices et les mesures préventives. Et l'idée fondamentale, c'est d'arriver à avoir une rigueur jurisprudentielle, dit Morel, autrement dit, une rigueur des normes, des processus, des méthodes de travail qui soient bien définies, mais qui soient adaptables et adaptées dans le temps, d'où le mot jurisprudentiel. Et donc, si les erreurs remontent, si les incidents sont connus, eh ben, on va petit à petit améliorer le savoir-faire et le comportement et la résistance. Dans mon activité de logistique, on est capable de transporter près de 100 000 gros électroménagers par an et d'en avoir abîmé dans l'année que 22. 22 sur 100 000. Quand je cite ces chiffres aux gens, ils me disent « Mais c'est pas possible, vous faites quoi ? Comment ? C'est pas possible. » D'habitude, c'est entre 2 et 3 % chez la plupart des logisticiens. Voilà. Ben, c'est une démarche. Donc on apprend en permanence et chacun, à l'aide d'un document qui s'appelle la fiche anomalie, est auteur, est alerteur. Voilà, je crois que c'est ça qui est important, que chacun puisse alerter, interpeller et dire « il y a ce problème-là ».
Voilà, et puis on peut partir du principe qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire correctement leur travail, donc quand ils signalent une difficulté, derrière ils n'ont pas envie que ça se reproduise.
C'est évident.
L'autre chose, c'est que vous avez parlé de l'exemplarité, déjà une ou deux reprises, et vous vouliez nous prendre un exemple sur cette exemplarité.
Oui, j'avais été très marqué à l'époque par ce qui s'est passé en 2009, sur l'Hudson, près de New York, tout le monde se rappelle de cet avion qui au décollage...
Tout le monde ne s'en souvient pas, donc allez-y.
Bon, donc un Airbus en plus, un 320, qui décolle de l'aéroport Kennedy et qui, dans la première partie de son vol, va rencontrer un vol de cigogne. Vous connaissez la taille des cigognes, donc vous imaginez les dégâts que ça peut faire dans un réacteur. Et donc cet avion a les deux réacteurs qui sont... bloqués, arrêtés par les oiseaux qui ont été avalés par les réacteurs. Que faire ? Et c'est là que le pilote décide, il évalue les risques, et il décide qu'il va aller se poser sur l'Hudson. Il réussit la pose, en plein hiver en plus.
Donc l'Hudson, en l'occurrence, c'est ?
Une rivière qui passe autour de New York. Et donc, il a mairi véritablement avec son avion. Et un avion, ça flotte, un certain temps. Et il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu un blessé, tout le monde s'en est sorti, et il a été traité comme un héros par la population, mais la direction de l'aviation civile américaine l'a convoqué immédiatement parce qu'il n'avait pas respecté les procédures. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Quand il a annoncé en l'air qu'il n'avait plus de moteur, on lui a dit par guidage, radio, qu'il fallait qu'il aille sur tel et tel autre aéroport se dévier. Et lui, il a répondu, non, moi, j'aurais pas le temps.
Donc, quel est le lien avec l'exemplarité, là ?
C'est qu'à un moment donné, il a été capable de prendre une décision qui était contraire aux normes et aux règles habituelles, je dirais, et à l'assumer jusqu'au bout. Et c'est devenu un véritable héros. Donc, le film, il s'appelait Ange, je sais plus comment, et son prénom, c'était Ange. Et donc, le film s'appelle Ange et met en valeur le comportement héroïque de ce bonhomme et la grande simplicité dans laquelle il a pensé qu'à une chose, sauver des vies.
La dernière chose pour finir, c'est, vous vouliez faire écho à une phrase de Saint-Exupéry, il n'est qu'un luxe véritable, celui des relations humaines. Alors il y a une autre expression plus courante, mais semble-t-il qu'il n'y a pas votre faveur, qui est « il n'y a de richesse que d'hommes ».
Oui, c'est pas une histoire de faveur, mais c'est vrai que « Terre des hommes » est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir quand j'étais jeune et qui m'a donné envie d'assumer des responsabilités. Et Saint-Exupéry disait dans cette œuvre « la grandeur d'un métier, c'est peut-être avant tout d'unir les hommes ». Car il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. celui qui veille modestement sur quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, il se découvre beaucoup plus que serviteur, il est sentinelle, et chaque sentinelle est responsable d'un empire. Tout est dit.
Tout est dit, mais au moins il reste une minute. Est-ce que vous voulez le développer un petit peu?
Ça veut dire que chacun, là où il est, a un rôle de veilleur, de guetteur, de sentinelle, et donc peut dire des choses, peut témoigner, peut partager. Et que si on sait donner la parole à ces sentinelles, si on sait prendre en compte leurs observations, le monde va être meilleur.
Merci beaucoup François de Berthier. N'hésitez pas à vous réinviter pour développer l'un ou l'autre des thématiques que vous abordez comme consultant. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.